Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
À tous, il n'y a pas que les partis, les instituts de sondage et on l'espère les électeurs français qui ont les yeux rivés sur l'issue de l'élection présidentielle en France. L'ensemble de l'Europe s'interroge sur l'avenir politique de la deuxième économie d'Europe, première puissance militaire et membre fondatrice de l'UE. Et en Allemagne, partenaire historique de la France, on suit de très près la position de l'extrême droite qui n'a jamais semblé si proche du pouvoir. C'est le reportage de Déborah Berlioz.
Comme beaucoup d'Allemands, Sacha a suivi les résultats du premier tour le 10 avril. Il faut dire que son compagnon est français, ce qui renforce son intérêt pour la politique hexagonale. S'il est déçu par l'issue du scrutin, il ne s'attendait pas vraiment à autre chose.
C'était clair depuis longtemps que l'extrême droite avait un fort potentiel électoral, donc ça ne m'a pas surpris. Et puis j'ai tendance un peu à relativiser, ce qui est sans doute dangereux, je l'admets. Mais vu d'ici, l'extrême droite française, ce n'est pas la même qu'en Allemagne.
Le Rassemblement national lui semble moins radical que son homologue allemand, l'Alternative pour l'Allemagne, ou AfD. De manière générale, si Marine Le Pen inquiète les Allemands, elle leur fait moins peur qu'en 2017. C'est en tout cas ce qu'a observé Myriam Hartlap. Elle est politologue à l'Université libre de Berlin.
Marine Le Pen,
dans son programme, notamment sur la politique européenne, Marine Le Pen ne réclame plus haut et fort une sortie de la France de l'Union européenne. Cela est remarqué en Allemagne. Et cela contribue sans doute au fait que les gens ne s'inquiètent pas autant qu'ils le devraient.
La prépondérance de l'extrême droite et de ses sujets dans la campagne électorale française n'est tout de même pas passée inaperçue de ce côté du Rhin. A l'inverse, lors des dernières législatives en Allemagne, en septembre 2021, l'immigration était presque absente du débat politique. Pour Chantal Kopf, députée écologiste au Bundestag allemand, cette différence a plusieurs explications.
La France a malheureusement été très touchée par des attaques terroristes islamistes dans une bien plus grande mesure que l'Allemagne, et ça joue certainement un rôle. De plus, l'acceptation de l'immigration est plus forte quand les citoyens sont satisfaits de leur situation économique. Or, cette satisfaction est plus grande en Allemagne qu'en France.
Cela ne veut pas dire que le discours d'extrême droite est absent ici. Après l'arrivée massive de réfugiés en 2015, l'AfD a enchaîné les succès électoraux. Elle est même entrée au Bundestag en 2017 avec plus de 12% des voix. Mais le parti a perdu 2 points lors des dernières législatives. Pour Myriam Hartlap, le système politique français fournit de l'eau au moulin des populistes.
En Allemagne, nous avons une part de plus en plus grande de la population qui ne se sent pas représentée par les dirigeants politiques. Et cela est justifié. C'est un sentiment qui est également fort en France. Mais en France, on a un système présidentiel où, dans la perception des citoyens, le président est très éloigné d'eux et de leurs préoccupations. Dans ce contexte, on peut donc peut-être davantage faire jouer le ressentiment contre ceux d'en haut.
En Allemagne, à l'inverse, le président n'a qu'une fonction de représentation. Le vrai pouvoir réside dans les mains du chancelier, qui est nommé par le Bundestag. Et ce Bundestag est élu en partie à la proportionnelle, ce qui permet à plus de partis d'y envoyer des députés. Pour gouverner, les partis doivent donc former des alliances, ce qui a certains avantages selon Myriam Hartlap.
Nous avons un gouvernement de coalition avec plusieurs partis. Donc ce gouvernement doit toujours s'efforcer de trouver un équilibre, de faire des compromis. Et beaucoup d'électeurs peuvent se sentir représentés car le parti pour lequel ils ont voté est effectivement au gouvernement.
Si Sacha est loin de trouver son système politique parfait, le régime présidentiel à la française le déconcerte un peu.
À l'école, on apprend que la France est l'un des pays fondateurs de la démocratie moderne. Et après, on se rend compte qu'en fait, c'est un pays qui donne un énorme pouvoir à une personne à la tête de l'État. Ça ne correspond pas vraiment à ma conception de la démocratie.
Forcément, cela ne le réjouit pas d'imaginer Marine Le Pen avec autant de pouvoir. Surtout que cette perspective paraît bien plus réaliste qu'en 2017. Un scénario qui effraie aussi Chantal Kopf.
Marine Le Pen a dit clairement que pour elle, l'amitié franco-allemande est dépassée et qu'elle n'est pas si importante pour l'Europe. Donc je m'inquiète beaucoup pour la future coopération entre nos pays.
Sans compter que si la candidate du RN ne plaide pas pour une sortie de l'Europe, elle n'est certainement pas partisane d'une plus forte intégration européenne, alors que c'est une des priorités du gouvernement allemand. Autant dire que le deuxième tour sera suivi avec attention ici aussi.
et à Bruxelles. Autant dire que les deux candidats qui s'opposeront au second tour ont des idées diamétralement opposées sur l'Europe. D'un côté, l'Européen Emmanuel Macron veut développer une Europe puissante et autonome, tant du point de vue de l'économie, de l'énergie que de la défense. De l'autre côté, Marine Le Pen ne réclame plus un Frexit ou une sortie de l'euro, mais de nombreux freins à l'intégration européenne. À Bruxelles, Jean-Jacques Herry a demandé à l'eurodéputé Philippe Lamberts, co-président du groupe des Verts, comment il voyait ce duel.
Évoquer l'entre-deux-tours français à Bruxelles auprès des fonctionnaires européens ou des élus n'offre pas vraiment de surprise. Dans les bureaux, les salles de réunion ou dans l'hémicycle du Parlement, rares sont ceux qui souhaitent voir Marine Le Pen devenir présidente de la République française dimanche prochain. À commencer par Philippe Lamberts, il est eurodéputé et écologiste belge et coprésident du groupe des Verts Alliance Libre Européenne au Parlement.
Le premier moteur, en tout cas, ou la première attente de la plupart des collègues au niveau européen, c'est que Marine Le Pen ne soit pas élue. Et donc par défaut que Emmanuel Macron soit élu. De là à dire qu'il y a un enthousiasme général pour les idées défendues par Macron, en particulier sur la question de l'autonomie stratégique européenne, là il y a un pas qu'il faudrait franchir avec un peu de prudence.
Durant ses 5 années de mandat, Emmanuel Macron en effet parfois déçu à Bruxelles, donnant l'impression de faire cavalier seul. Mais il s'est finalement européanisé, reconnaît-on. Il a appris l'art du compromis, la consultation et les négociations avec les autres États. Pour Philippe Lamberts, même si ses propositions de campagne sur la question européenne restent floues, elles manquent de concret, par exemple, lorsque le président candidat dit vouloir une Europe plus forte et plus indépendante, au moins, on connaît sa vision et elle passe par l'Union, alors que les propositions de Marine Le Pen, elles, sont un repoussoir dans la capitale européenne, notamment celle de vouloir faire primer le droit national sur le droit européen en l'inscrivant dans la Constitution française.
Les propositions de Marine Le Pen sont très concrètes sur le plan européen. Marine Le Pen peut adopter un profil beaucoup plus lisse que ce n'était le cas par le passé. Une série de propositions qu'elle fait sont en contradiction totale à la fois avec l'ordre institutionnel français, mais aussi avec les traités européens, qu'on pense à la primauté du droit européen, qu'on pense à la question de la libre circulation, de l'égalité de droit entre tous les citoyens européens, ce qui est évidemment en contradiction directe avec la préférence nationale. Donc clairement, son programme est une attaque directe par rapport au fondement de l'Union européenne. La réalité des choses, c'est que ces propositions l'amènent à un conflit frontal avec l'Union européenne, dont l'issue, si elle tient bon sur son cap, ne peut amener que la sortie de la France de l'Union européenne, et donc un coup, sinon fatal, au moins extrêmement grave à la construction européenne.
Et puis il y a aussi en toile de fond la guerre en Ukraine. Jusqu'ici, les 27 États membres sont parvenus à afficher un front uni pour prendre des sanctions contre la Russie. On verrait donc d'un mauvais œil l'arrivée d'un chef de l'État qui, par le passé, et comme Viktor Orban en Hongrie, n'a jamais caché sa proximité avec Moscou. Bref, à Bruxelles, on assiste plutôt à un front anti-Marine Le Pen qu'à une véritable adhésion à la candidature d'Emmanuel Macron.
Et puisqu'on parle d'Europe et d'équilibre des forces au sein de l'UE, le gouvernement hongrois de Viktor Orban a tout intérêt à voir la candidate du Rassemblement national remporter le scrutin de ce dimanche. Il serait moins isolé à Bruxelles, lui qui prône une démocratie illibérale où les contre-pouvoirs et les droits des migrants sont réduits au minimum. La Hongrie est à la fois un modèle et un soutien financier pour Marine Le Pen. À Budapest, Florence Labruyère.
Dans le programme de Marine Le Pen, il y a une proposition qui vise à empêcher les réfugiés de demander l'asile à leur arrivée en France. Cette idée, Marine Le Pen l'a empruntée à la Hongrie de Viktor Orban, où depuis 2020, une personne se trouvant sur le sol hongrois ne peut plus y demander l'asile. Elle doit le faire dans son pays d'origine. Autre aspiration de la candidate du Rassemblement national, asphyxier les contre-pouvoirs, comme Viktor Orban l'a fait en Hongrie. La Cour constitutionnelle a été bâillonnée et elle est truffée de juges choisis pour leur loyauté au pouvoir. Le Premier ministre hongrois a aussi muselé la presse en prenant le contrôle des médias publics, devenus une machine de propagande, et en faisant racheter par ses amis des journaux d'opposition, soit pour les fermer, soit pour les transformer en alliés du régime. Pour Marine Le Pen, Viktor Orban n'est pas seulement un modèle, c'est un soutien. Elle a pu financer sa campagne grâce à un prêt de 10 700 000 euros d'une banque hongroise. Or, cette banque appartient à Lőrinc Mészáros, un ancien plombier chauffagiste devenu l'homme le plus riche du pays et qui n'est autre que l'homme de paille de Viktor Orban. Idéologiquement, le Premier ministre hongrois est plus proche d'Éric Zemmour que de Marine Le Pen. Orbán est un fervent adepte de la théorie du grand remplacement. Mais depuis qu'il a été mis à la porte du PPE, le groupe des euroconservateurs de Bruxelles, le souverainiste hongrois s'est rapproché du Rassemblement national, car il souhaite bâtir une alliance des droites radicales au Parlement européen, et il a besoin de l'extrême droite française. D'ailleurs, en janvier dernier, Viktor Orbán a annoncé publiquement qu'il soutenait Marine Le Pen dans sa course à la présidence. Comme le souligne un média hongrois indépendant, une réélection d'Emmanuel Macron handicaperait le dirigeant hongrois. En revanche, si Marine Le Pen devient présidente de la République, cela renforcera la position d'Orbán en Europe. C'est un peu comme si Viktor Orbán jouait au loto et qu'il avait acheté la grille Le Pen. Le 24 avril, on saura si le Premier ministre hongrois obtient les 5 numéros gagnants ou pas.
L'alliance Orbán-Le Pen dans les institutions européennes pour défendre le souverainisme, voilà un scénario qui fait peur aux Italiens, alors que Matteo Salvini, le leader de la Ligue, s'est assagi en rentrant dans le gouvernement de Mario Draghi, mais que Fratelli d'Italia de Giorgia Meloni brandit désormais l'étendard anti-européen. Écoutez ce qu'en dit Paolo Levi, il était l'invité dimanche de Carrefour de l'Europe.
Aujourd'hui, il y a un vrai clivage qui se dessine entre ce que Marine Le Pen répète à longueur de journée pendant l'entre-deux tours, c'est-à-dire cette alliance des nations souveraines et une idée d'intégration européenne qui est celle de nos pères fondateurs, qui est la même depuis l'après-guerre et qui est celle de l'union qu'on a construite ensemble. En Italie, aujourd'hui, l'homme qui incarnait ces idées et l'allié de fer de Marine Le Pen, Matteo Salvini, a compris quelque part la gravité du moment qu'on est en train de traverser. C'est un homme qui maintenant a changé complètement de position et soutient l'actuel gouvernement de Mario Draghi. Parce que c'est une période très très particulière où il faut faire preuve d'unité totale, sinon on risque vraiment de ne pas venir à bout. De l'autre côté, il y a une autre dame de l'extrême droite qui s'appelle Giorgia Meloni, qui elle est en train de rafler la mise. Son parti, le Fratelli d'Italia, est devenu ces derniers mois le premier parti en Italie. Et qui, elle, est en train, disons, de prendre la relève et pourrait devenir une future alliée d'Orbán et de Marine Le Pen, parce que Salvini, quelque part, il a jeté l'éponge de cette radicalité.
Paolo Levi, correspondant à Paris de l'agence de presse italienne ANSA, interrogé par Juliette Rangeval dans Carrefour de l'Europe. Et à Londres, les électeurs français sont généralement très courtisés par les candidats. Bonjour Marie Billon.
Bonjour Frédéric.
Vous êtes notre correspondante à Londres et on peut dire que cette année, presque tous les candidats ont fait exception à la règle.
Alors c'est vraiment le jour et la nuit. Il y a 5 ans, Emmanuel Macron, l'homme nouveau de la campagne, voulait créer sa Startup Nation sur le modèle britannique. Il avait un réseau très élaboré et développé de soutien parmi notamment les entrepreneurs français de Londres. Certains, les plus connus à l'époque, sont rentrés en France après l'élection de leur candidat. Ils ne sont donc plus là pour animer la campagne outre-Manche, ni pour organiser des levées de fonds pour Emmanuel Macron. Adieu donc les différents dîners et autres occasions de participer à la campagne. Mais bien sûr, le président candidat lui-même est absent, il n'a pas traversé la Manche. Des relations tendues avec le gouvernement de Boris Johnson, mais surtout une campagne à minima à cause de la guerre en Ukraine, retiennent Emmanuel Macron de son côté de la Manche.
Les autres candidats non plus n'ont pas été chercher le vote des Français du Royaume-Uni.
Non, en effet, seul Éric Zemmour avait fait un meeting assez remarqué. Alors, on peut se demander pourquoi cette terre de campagne en 2017 est délaissée cette année. Sur le fond, la Startup Nation, c'est du passé. En tant que projet, l'exemple britannique et l'exemplarité des petits entrepreneurs français s'épanouissant autour du Silicon Roundabout, comme on appelle plus le quartier high-tech de l'Est de Londres, n'est donc plus un exemple. Alors, est-ce dû au Brexit qui est devenu effectif entre-temps ? Les Français sont-ils partis ? Il y a eu un exode lié à la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, mais aussi le Covid. Pourtant, il y a plus de Français inscrits sur les listes électorales cette année. En 2017, ils étaient 93 000 inscrits. Cette année, ils sont 109 000 à Londres, 116 595 sur l'ensemble des listes consulaires. Il a donc fallu ouvrir deux nouveaux bureaux de vote dans la capitale britannique.
Et ces Français de Londres, Marie, s'intéressent-ils quand même à cette élection ?
Alors si c'est le cas, le taux de participation au premier tour ne le prouve pas. Seulement un peu plus de 36 000 Français du Royaume-Uni ont voté, soit un peu plus de 31%, un taux plus bas qu'en 2017. Côté résultat par contre, c'est toujours Emmanuel Macron qui arrive en tête avec 52,26% des voix. À Londres, c'est Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot qui ont terminé sur le podium, alors que d'ordinaire, c'est la droite historique qui l'emporte. Valérie Pécresse, par contre, cette fois est arrivée cinquième, derrière Éric Zemmour. L'effet vacances de Pâques a peut-être découragé les électeurs des deux côtés de la Manche, mais côté britannique, les deux candidats qui sont au second tour n'ont pas beaucoup cherché à les courtiser.
Merci Marie Billon à Londres. Comment vont voter les jeunes ? C'est la question que vous vous posez, Alice Rougeat, dans votre chronique « C'est votre Europe ». À 3 jours du scrutin.
Alors forcément, il y a des gens pour qui la question ne se pose pas. Ceux qui feront comme au premier tour en déposant dans les urnes un bulletin en faveur du président candidat Emmanuel Macron ou de la candidate Marine Le Pen par conviction. Ils ont tout de même su séduire respectivement 24 et 18% de l'électorat âgé entre 18 et 24 ans.
35% des jeunes ont tout de même voté à gauche pour Jean-Luc Mélenchon. Peut-on imaginer comment ils exprimeront leur voix dimanche prochain?
La consigne du candidat insoumis, elle est très claire, c'est « aucune voix ne doit aller à l'extrême droite ». Une consigne qui ne séduit quand même pas tout le monde, elle ne prend en tout cas pas chez les partisans du « ni Le Pen ni Macron ». Un slogan brandi à la Sorbonne, la célèbre fac parisienne, où 500 étudiants ont fait blocus la semaine dernière, et depuis hier, d'autres universités et lycées ont rejoint le mouvement de contestation. Leur argument, un choix horrible à faire entre une droite libérale et climaticide ou l'extrême droite. En clair, avec n'importe quel candidat, ils ont peur pour l'avenir, celui de la planète et des minorités. Quant au barrage face à l'extrême droite, certains le feront, mais impossible de savoir combien.
Et les deux candidats, Alice, parlent-ils de la jeunesse dans leur programme ?
Pour séduire la jeunesse, les deux candidats misent globalement sur le travail et l'emploi. Emmanuel Macron via la formation, dans la continuité de ce qu'il a proposé ces 5 dernières années, il veut intensifier l'apprentissage et généraliser le service national universel dans l'idée que les jeunes trouveront une embauche par ces biais. Marine Le Pen, elle, c'est plutôt via l'allègement fiscal des jeunes travailleurs. Elle voudrait exonérer d'impôts tous les jeunes de moins de 30 ans, quel que soit leur revenu, et aussi les jeunes entrepreneurs ou indépendants.
Pas sûr que cela motive tous les jeunes à aller voter, car l'enjeu de cette élection, c'est surtout l'abstention.
Oui, parce que 40% des jeunes se sont abstenus, hein. C'est presque 2 fois plus que l'ensemble de la population, et c'est plus massif encore qu'en 2017. Mal inscrits sur les listes électorales, désintéressés, parfois désabusés de la politique. En fait, énormément de jeunes ne votent pas. Ils font partie de ceux que les instituts de sondage appellent les abstentionnistes systématiques. Ils seront certainement rejoints par les ni Le Pen ni Macron. En tout cas, les politologues s'attendent à une abstention massive et encore plus chez les jeunes.
Merci Alice Rougeat, à très bientôt. Accent d'Europe était réalisé par Françoise Grelot. Abonnez-vous à l'émission sur vos plateformes de podcast. À demain.